Décryptualité, semaine 39. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, on est encore tous les deux.
Eh oui, suspicion de Covid chez Nicolas, notamment.
Donc, le sommaire de la revue de presse. BlogNT, les codes sources de Windows XP et Office 2003 ont fait l'objet d'une fuite en ligne. Un article de Yoann Poiron.
Alors, c'est bizarre de voir dans la revue de presse du logiciel libre quelque chose qui parle d'un logiciel privateur. Pas des moindres, hein, Windows, rien que ça. Mais il se trouve que le gars qui a diffusé le code source se revendique, ou en tout cas revendique des liens avec le libre. Notamment, il indique qu'il pense que le logiciel de Windows devrait être libre, parce que Microsoft revendique amoureux du logiciel libre, bah, ils ont qu'à le montrer.
Alors, c'est des vieilles versions. Hein.
Oui, c'est des très vieilles versions qui ne sont plus officiellement soutenues.
Ouais, en tout cas, il prend des gros risques juridiques pour un truc qui ne sert quand même pas à grand-chose. Mais bon... La Croix numérique, le guide pour échapper à la mainmise des GAFAM, un article de Stéphane Bataillon.
Alors La Croix, c'est toujours rigolo de voir un journal religieux qui parle de logiciels libres et de vie privée dans ce cas-là. Il y a d'autres articles hein, qui sont sur leur site.
Normalement, il n'y a que Dieu qui est omniscient, donc la concurrence, c'est pas bien.
Oui, c'est vrai, effectivement. On contrôle les âmes, on contrôle les comportements numériques. Donc il y a d'autres articles, allez jeter un œil hein, sur la Croix en général. Il y en a sur le logiciel libre, pour le coup, qui permet de reprendre le contrôle et comment aborder et apprendre à utiliser ces outils. Donc c'est assez intéressant.
Le vent se lève, la surveillance est un mode du capitalisme. Entretien avec Christophe Mazouti, un entretien mené par Maude Barrette-Bertelloni.
Alors ça parle d'un livre de Christophe Mazouti, qui parle de vie privée encore une fois, mais d'un autre point de vue, c'est d'un point de vue politique. Économie politique, exactement. Donc le capitalisme est largement la bête qu'il faut tuer. Donc c'est une orientation qui est toujours intéressante, même si on ne la partage pas forcément.
France Culture, Pierre-Antoine Gouraud, l'intelligence artificielle face au Covid, un article de Maxime Tellier.
Alors j'ai trouvé ça bizarre qu'il parle d'intelligence artificielle, parce que ce qui est présenté dans l'article surtout, c'est la machine qu'ils ont inventée, MechAir, qui est un respirateur artificiel. Dans le cadre du Covid, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées pour essayer de mettre en place et de mettre au point des respirateurs artificiels. Eh bien, eux, ils ont réussi à terminer le projet. C'est un des rares qui est dans ce cas. Et ils ont l'air d'avoir quelque chose d'assez abouti, d'après les vidéos qui
ouais,
sont sur l'article.
On va voir ça, parce qu'effectivement, en voyant un peu des choses sur le sujet, les respirateurs artificiels, ce qu'on a vu beaucoup dans les bricolages, c'est des sortes de respirateurs d'urgence. Les respirateurs artificiels qui sont utilisés dans les hôpitaux, prendre en compte toute une série de signes chez le patient, notamment ne pas lui envoyer de l'air dans les bronches alors qu'il n'est pas en train d'essayer de respirer. Notamment quand la personne est consciente, c'est juste invivable, insupportable. Donc ça va quand on est en urgence, mais faire quelque chose de plus avancé, c'est compliqué. Donc s'ils sont allés jusqu'à ce niveau-là, c'est impressionnant. Le Figaro, Santé Recherche, le Conseil d'État rejette un recours contre les transferts de données vers les USA. Un article de la rédaction.
Alors on a déjà parlé, c'est le Health Data Hub, c'est le fait que les données de santé des Français soit envoyé sur des serveurs américains, des serveurs de Microsoft. Donc c'est embêtant, on n'aime pas ça. Et puis c'est embêtant notamment parce que d'un point de vue plus vie privée, on sait que les États-Unis surveillent leurs citoyens et les citoyens du monde entier, donc nous. L'Europe a cassé certains accords qu'il y avait d'échange de ces données privées. Mais malgré tout, ça va continuer puisque y a eu un rejet des attaques qui ont été faites contre cet accord. De quoi on parle ?
Alors, l'idée, c'était de revenir sur quelque chose qui n'est pas dans la revue de presse, un article sur lequel je suis tombé sur Mastodon aujourd'hui.
Alors, Mastodon, un micro-réseau social, un peu comme Twitter. Et tu t'informes sur Mastodon, donc ?
J'y suis, oui, effectivement. Je poste 2-3 bricoles de temps en temps. Et je publie chaque sortie de Décryptualité également sur Mastodon.
Et là, t'es tombé sur ?
Donc voilà, je suis tombé sur un article que j'ai trouvé assez intéressant et qui permettait de reparler de Cambridge Analytica, sujet qu'on a évoqué souvent, mais qui pour moi est très impressionnant, qui a changé un peu la face du monde, en tout cas contribue à ça.
C'est assez fondamental, en plus dans l'époque actuelle, avec les élections qui sont en train d'arriver. On va encore en plus en parler.
Effectivement. Donc, un rapide rappel, parce qu'on ne va pas en refaire toute l'histoire. Cambridge Analytica est une boîte de conseil influence politique britannique qui a utilisé les millions et millions de données personnelles que Facebook a balancées au monde entier de façon complètement irresponsable en envoyant des données à qui voulait. Hein. À peu près tout le monde et n'importe qui les a eues. Ils ont réussi à faire des liens entre ce que les gens like sur Facebook et des profils psychologiques et des centres d'intérêt. Et ils ont été mis à contribution pour l'élection de Trump et pour le Brexit, notamment. Et dans les deux cas, deux scrutins dont on pensait que jamais ça passerait. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables d'avoir des données assez précises sur les gens. Donc l'exemple que j'aime bien utiliser, c'est aux États-Unis des fans de flingues. Donc quand on est fan de flingues, ils ont défini deux profils essentiels, selon eux, qui était « Je suis fan de flingues parce que j'ai peur que je me fasse agresser ou que le monde se mette à tourner au chaos et donc je veux être armé pour me défendre. »
Dès que la vague zombie arrive, moi j'ai des armes. Hein.
Voilà, mais les délinquants...
les noirs, voilà. Les noirs, voyons.
Probablement, hein, tout ça. Donc plutôt dans la démarche d'autodéfense. Et il y a un deuxième modèle qui est le second amendement qui autorise, selon les interprétations, à posséder des armes à feu et qui dit c'est mon droit constitutionnel.
Et je le fais pour me défendre contre l'intrusion de l'État, notamment.
Oui, et en disant l'État fédéral, c'est des méchants, alors plus ou moins forts, mais en tout cas, j'ai le droit d'en avoir, donc j'en ai. Donc du coup, ils ont été capables de savoir qui aimait les flingues, sachant qu'on y trouve beaucoup plus d'électeurs potentiels de Trump. Et ils ont été capables d'envoyer des messages orientés en fonction du profil des gens.
Pendant à cela, ils auraient été capables, ils auraient réussi à envoyer des publicités pour dégoûter les gens qui n'allaient pas voter pour eux.
Oui, et tous ceux qui étaient susceptibles de s'abstenir, donc en leur envoyant non pas des infos pour essayer de les convaincre de voter pour Trump, mais en leur envoyant des infos pour essayer de les convaincre de ne pas voter pour Clinton.
Alors ça a été validé, hein, les services secrets de Grande-Bretagne et des États-Unis ont indiqué plus ou moins officiellement que oui, il y a bien eu ingérence, les dossiers ont été enterrés ou expurgés. Je crois même qu'il y a eu des archives qui ont été faites pour que ce soit ouvert dans 50 ans, hein, on s'en occupera plus tard. Mais oui, on sait aujourd'hui qu'il y a eu manipulation extérieure. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est grave?
Oui, enfin je veux dire, c'est pas nouveau dans le sens où faire des manipulations politiques chez tes adversaires, tes concurrents, tes ennemis, ça se fait de tout temps.
Nous-mêmes, on l'a fait dans plein de pays, hein, nous, l'Occident, hein, oui. Je veux dire, on a manipulé en Iran, en Irak, des gouvernants.
Mais on sait à quel point c'est pourri, et donc du coup, tu as tout intérêt à ce que ça se passe chez toi, parce que c'est pas bon, en fait, d'avoir des ingérences. Donc là, c'était une terrible illustration de ce qu'on peut faire de néfaste avec les réseaux sociaux et qui expliquait pourquoi on avait raison, nous libristes, de dire que les réseaux sociaux, c'est caca, depuis toutes ces années. Et donc cet article reparle de Cambridge Analytica qui est toujours actif et qui, cette fois, s'est lancé dans un nouveau business.
Alors, quel genre de travail? Un truc avec de l'argent et des politiques?
Eh bien, c'est toujours aux États-Unis et ils travaillent dans le domaine de la religion. Et donc, ils ont développé pour le compte de mouvements religieux, mais mouvements de l'alt-right, donc les mouvements d'extrême droite américains.
L'alternative de droite. Hein.
Voilà, bon, tous les gens qui sont derrière Trump. Une application qui leur permet de cibler les gens vulnérables. Donc, ils vont être des gens endettés, par exemple, qui vont être dépendants aux opioïdes. On en parle un peu, c'est peu aussi, mais une crise des opioïdes aux États-Unis qui est complètement hallucinante.
Et qui a plus ou moins été faite par les compagnies pharmaceutiques.
C'est un autre sujet, mais allez voir ça, c'est assez fabuleux. Également, les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, les gens qui vont être bipolaires, etc., etc. Donc, moyen de les localiser près de chez soi pour aller les démarcher en leur disant oh, « Nous sommes une église, nous voulons vous aider », ce qui est très très louable, mais qui est également un moyen pour eux de les faire rentrer dans leur église, de générer du revenu, parce qu'on leur demande des dons, bien qu'ils soient en difficulté. Mais les gens qui font ce documentaire, qui sont des Anglais, qui sont partis justement du Brexit et qui ont voulu étudier ce que faisait Cambridge Analytica, disent que derrière, a priori, il y a également des visées politiques et électorales qui visent à faire basculer une force dans les États où les élections, les rapports de force sont limites. Ce que les Américains appellent les swing states, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un côté à l'autre.
Donc on aurait appelé ça le marais chez nous à une certaine époque. Hein. Effectivement, il y a des États, on sait, c'est eux qui ont permis à Trump de se faire élire. Donc là, s'ils arrivent à faire basculer des gens en difficulté de manière générale pour voter, récemment vers cette alternative de droite, cette extrême droite américaine, donc on est encore dans une manipulation à fond, mais vraiment, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que là, ça ne va pas être des articles sur Facebook. Ça va être des gens qui vont aller démarcher avec de bonnes intentions pour faire la charité, pour essayer de sortir du besoin des gens qui sont dans des gros problèmes, et ensuite les utiliser. Alors moi, je te répondrais que ça, c'est ce que font les religions depuis 2000 ans. Je veux dire, les chrétiens sont venus largement au pouvoir grâce à ça, grâce à ce genre de démarche.
Oui, la sophistication du procédé, de pouvoir les cibler avec des données générées par les réseaux sociaux, et de savoir dire « Ah, je sais où sont tous ces gens-là, je peux savoir quels sont leurs problèmes ». Je suis capable de dire qui est en dépression, qui va divorcer, qui a des problèmes de drogue, qui a des problèmes d'argent. Et donc, d'avoir plein d'informations sur ces gens qui sont des cibles. Et c'est toujours un petit peu choquant de se dire que des gens vulnérables sont l'objet d'une convoitise.
Alors, dans l'article, donc, c'est une journaliste et des équipes de reporters qui sont en train de se promener aux États-Unis et qui font un documentaire. Donc, on peut imaginer qu'il va en ressortir quelque chose à un moment donné, peut-être avant les élections présidentielles américaines.
Voilà, effectivement. Donc, eux disent que derrière, il y a une sorte de mouvement républicain qui est à l'œuvre depuis les années 90 et qui essaye de changer la constitution américaine. Bon, à voir à quel point c'est vrai, mais en même temps, le système américain est arrivé à un tel niveau de folie que tout est possible. Mais du coup, pour moi, c'était intéressant. Bon, d'une part, de voir que Cambridge Analytica est toujours en mesure de nuire et de faire des coups pourris.
Alors qu'on avait supposé qu'ils étaient plus ou moins morts et que c'était remonté à la maison mère, parce qu'il y a une entreprise au-dessus d'eux qui était supposée avoir éteint un peu le feu. En
changeant de nom, oui.
Oui, voilà, bah, voilà, exactement. Mais les méthodes et les gens qui sont derrière sont probablement encore là et bah, ils sont encore aux manettes et ils veulent être utiles à ce qu'ils pensent être peut-être le bien commun ou leur bien à eux.
Oui, oui, bah, ce voir. Que l'article cite, c'est que démographiquement, en 2035, la figure des blancs chrétiens sera en minorité aux États-Unis. Et donc, le plan serait, après, je ne sais pas dans quelle mesure on arrive à la théorie du complot, mais serait de changer la constitution avant cette échéance pour ne pas perdre la position dominante qu'ils ont.
Alors moi, je sais, j'ai vu des trucs là-dessus. Je sais que les Républicains travaillent sur ce jeu long. Ils savent qu'effectivement, en termes de population, de démographie, ils sont mal. Mais ils ciblent les institutions longues. Là, c'est la Cour suprême qui est en jeu en ce moment. Il y a des nominations qui sont sorties.
Dans ce cas-là, Facebook, par les données qu'il a rendues publiques, et par les moyens de communication qu'il offre, est une sorte de média. C'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, et notable, c'est de se dire que ces outils de médias, la télévision avant, etc., et les médias de masse, ont été, dès leur invention, des outils pour orienter l'opinion, pour faire bouger les foules. Donc on peut citer au Rwanda, par exemple, la radio des Mille Collines, hein, qui a été utilisée pour appeler à la haine pendant des années et des années, qui ensuite a servi pour organiser que les génocidaires se synchronisent entre eux. Évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale et avant, la radio a été essentielle. Et aujourd'hui, on a donc ces outils-là qui sont sous un contrôle de Zuckerberg, notamment pour Facebook. Donc j'ai l'impression que Facebook est beaucoup plus sur le grill que les autres réseaux sociaux.
Alors moi, ma théorie, c'est que Zuckerberg est impliqué politiquement, il essaye de rentrer chez les Républicains et il a des visées à devenir président. Clairement, il s'est fait mettre en place une équipe de communication, il a fait une tournée des États américains. Soi-disant, c'était juste pour être en contact avec ses clients. Bon, on sait pas qui sont les clients.
Il y a déjà 2 ans, on disait qu'il visait peut-être la présidentielle, etc.
Donc il est encore jeune, donc il a beaucoup d'années devant lui, il peut développer son discours et développer sa personnalité. Mais en attendant, bah, il travaille pour Trump, hein, d'une certaine manière, directement ou indirectement. Il a notamment refusé de censurer les propos de Trump sur son réseau. Il y a eu une vague de démissions internes et il y a eu une petite rébellion chez les cadres et les techniciens de Facebook. Mais ça continue, il continue à alimenter, à aider le Donald à sa communication en général. Alors que Twitter, par ailleurs, eux, sont un peu rebiffés. Ils mettent maintenant des notices et ils mettent des liens de vérification. Alors je crois que Facebook, finalement, est arrivé à le faire, mais que ça a pris un temps fou et que ça a été très compliqué.
Et ils ont pris une grosse pression parce que leur premier mouvement, effectivement, était de dire « non, on ne fera rien ». Et Zuckerberg, effectivement, a toujours des positions beaucoup plus tranchées par rapport aux critiques que les autres réseaux sociaux, qui n'en passent pas moins, font que les autres GAFAM, qui font faire attention, pardon, mais bon, même s'ils s'en foutent, mais qui vont essayer d'arrondir les angles, alors que Zuckerberg est beaucoup, beaucoup plus tranché dans sa façon de faire.
Donc on peut voir ça hein, comme une manipulation politique. Je crois que Larry Ellison, le dirigeant d'Oracle aussi, s'est rapproché de Trump. Il me semble que c'est lui. Et ça pouvait l'intéresser, parce qu'il y a des marchés gigantesques pour le département de la défense, avec des problématiques de nuages. Oracle est un petit peu sur les starting blocks là-dessus.
Oui, et donc du coup, Amazon...
Bah, eux, c'est eux les rois du nuage, normalement.
C'est ça, mais le patron d'Amazon est l'ennemi intime de Trump et des guerres, etc. Donc du coup, je pense que c'est intéressant de bien avoir en tête que ces GAFAM, en tout cas certains d'entre eux, sont de plus en plus des objets politiques. Avant, on pouvait vaguement avoir un doute en se disant « bon, ils sont là pour faire du business ou ceci, cela ben, ». Très rapidement, quand on a du pouvoir, eh bien, on en veut plus. Et ce pouvoir s'étend à tous les aspects de la vie.
Sur ce, à la semaine prochaine.
Eh oui, à la semaine prochaine.
Et reposez-vous bien, surtout si vous êtes suspecté de Covid.
Je ne sais pas de qui tu parles.